Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père en son Fils Jésus le Christ, notre frère. Dans la lettre aux Romains, nous lisons ce verset. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Soyez ici, chez vous, dans cette maison où nous sommes venus pour nous ouvrir à la présence de Dieu, à sa parole dans la lecture de la Bible. Et aussi prendre le temps de le célébrer en esprit et en vérité. Bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais du site internet. Bienvenue et merci en particulier à Aurélien Péter pour son accompagnement musical ce matin. Prions ensemble. Père, nous sommes rassemblés pour ce temps de culte. Permets que nous soyons, avec la diversité qui nous caractérise, une communauté de prière et de joie. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde. Et que notre foi fasse grandir notre amour pour notre prochain. Envoie sur nous ton Saint-Esprit afin que nous vivions ce culte, le cœur apaisé. Amen. Réunis dans la communion fraternelle, nous allons chanter le premier chant du livret inséré au début du psautier. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Je vous invite à vous lever. Oui, Seigneur, nous te louons parce que tu fais pour nous des choses impossibles. Tu nous offres par la présence de ton Fils le meilleur de toi-même pour donner un sens à notre vie. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous appelles à vivre avec toi chaque jour de cette nouvelle semaine. Nous te louons parce que tu nous as dit « Tout est possible à celui qui croit ». Oui, Seigneur, nous te louons et de tout notre cœur nous t'appelons. Viens mettre ton impossible là où nous n'attendons plus rien. Donne-nous d'aimer encore là où notre cœur est devenu froid. Donne-nous d'espérer encore là où nous sommes déçus et résignés. Donne-nous de croire encore là où nous sommes gagnés par le doute. Ô Dieu d'amour, viens mettre ton impossible dans notre possible. Amen. Je vous invite à prendre maintenant dans le psautier français le psaume 130. Du fond de ma détresse, je t'invoque, Seigneur. Nous chanterons les quatre strophes de ce psaume.
Dans la mer.
Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Dans la prière, remettons à Dieu tout ce qui nous sépare de lui, des autres et de nous-mêmes. Mon Dieu, je te remets mes ténèbres. Ma vie obscure, je la connais. Elle est faite de mensonges et de vérités qu'on arrange. Et dans ses frontières, la place est grande pour l'orgueil et le jugement selon les apparences. Et la pitié reste dehors. Ma vie obscure est faite encore d'égoïsme ou de plaisirs factices. Et la place demeure grande pour la jalousie et la noirceur de mes pensées. La froideur de mon attitude et la miséricorde restent dehors. Ma vie de ténèbres reste prisonnière des rancœurs et des mots servis avec aigreur, ressentiment, emportement. Et dans son enceinte, la place est grande pour les jugements à l'emporte-pièce. Le double langage ou les ultimatums, et l'amour reste dehors. Mon Dieu, dans ma vie ténébreuse, je me sens divisée, écartelée, et ton absence est grande. Mais viens, regarde-moi, prends-moi la main telle que je suis, et je retrouverai la lumière, la confiance et la joie. Je retrouverai le chemin de la réconciliation et celui de la gratitude. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Le péché se niche dans la distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre vie, entre notre foi et nos craintes, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actions. Mais Dieu a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il a aboli toute distance et nous donne la réconciliation. Alors, au nom du Christ, laissons-nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous confessons notre foi. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent dans tous les hommes et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens, et l'univers aussi. Pour le monde comme pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, nous lisons les versets 29 à 39. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Jésus guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent. Ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Et il leur dit, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et il chassait les démons. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le cantique numéro 179. Nous t'invoquons, ô grand Dieu, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions. Comme des veilleurs, nous voici, ô Dieu, devant ta parole. Nous attendons qu'elle parle, qu'elle change notre regard et qu'elle fasse de ce jour un jour de fête. Nous attendons qu'elle bouge et qu'elle nous fasse bouger et qu'elle rende l'espérance à notre monde découragé. Comme des veilleurs, nous voici, ô Dieu, devant ta parole, que ton esprit lui donne vie pour nous et pour tous ceux qui l'écoutent en ce jour. Amen. Thank you. Amis, frères et sœurs, nous voici aujourd'hui propulsés au début de l'évangile de Marc, qui nous raconte une journée type de Jésus chargé en guérison. Une journée bien remplie, menée au pas de course. Et pour comprendre le passage que nous venons d'entendre, il me faut en quelques mots vous présenter ce qui s'est passé dans les versets précédents. L'action se situe à Capharnaüm, c'est le jour du sabbat. Jésus commence sa journée par aller à la synagogue où il enseigne. Tous sont frappés de l'autorité de son enseignement. Il y a quelque chose en lui de différent qui laisse une forte impression sur ses auditeurs, sur les plus fidèles comme sur les plus impies. Ils reconnaissent en Jésus une autorité qui n'est pas celle des scribes. L'autorité, ce mot désigne habituellement le pouvoir conféré par Dieu de faire des miracles. Et dans ce passage, c'est l'enseignement de Jésus qui a autorité. L'évangéliste Marc est en train de nous dire que la parole de Jésus est efficace, agissante. Alors c'est à ce moment-là que Jésus est pris violemment à partie par un homme de l'assemblée possédé par un esprit impur. Dans certaines traductions, on trouve même « sale esprit ». Qu'est-ce que ce terme désigne ? On désigne par ce terme une façon de dire et d'agir qui sème le trouble, l'inquiétude, le tourment, le désarroi. L'homme agresse verbalement Jésus en le désignant comme le Saint de Dieu, au verset 24. Et cette expression contient une dimension messianique. Elle rappelle une autre expression que l'on trouve en particulier dans le livre des Rois et qui désigne le prophète Élie, appelé saint homme de Dieu, lorsqu'il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Nous sommes alors devant une situation paradoxale. L'esprit impur de cet homme dit la vérité, mais cette vérité ne doit pas être dite. C'est une parole juste dans un esprit impur, c'est une parole exacte, mais elle ne doit pas être révélée de plein fouet. Cet esprit impur sait déjà tout de Jésus, mais cette révélation arrive bien trop tôt. Alors Jésus guérit cet homme en lui imposant silence par une parole péremptoire. Parce que cette vérité, si elle est trop vite dévoilée, pourrait empêcher celles et ceux, dont cet homme d'ailleurs, va empêcher de le suivre Jésus et de l'écouter à différents moments de sa vie, de son ministère, et donc de le rencontrer en profondeur et en vérité. Celles et ceux qui vont le rencontrer parleront et témoigneront à partir de leur propre expérience, en se laissant étonner, interpeller, transformer, rejoindre par sa personne et sa parole, sans être aveuglés ou séduits par ses guérisons miraculeuses. Alors, si cette vérité était trop vite divulguée, cela pourrait empêcher même Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission, au cours de laquelle les miracles de guérison du corps et de l'âme occuperont une place prépondérante. Ainsi que l'écrit si justement notre collègue Christine Prieto dans son ouvrage consacré à Jésus thérapeute, je cite, « Les guérisons opérées par Jésus touchent bien plus que le corps malade, souffrant ou en infirmité. Elles prennent en compte d'autres dimensions tout aussi importantes pour la santé de l'homme, accablement psychique, processus de déshumanisation, exclusion sociale et marginalisation, esprit accablé par la culpabilité du péché, sentiment d'être coupé de Dieu. » Fin de citation. Par les guérisons en tout genre, Jésus fait surgir un nouveau visage du Dieu d'Israël, celui du Dieu qui veut la santé totale de l'homme, physique, psychique, spirituelle et sociale. Une réconciliation complète de l'homme avec tout ce qui le compose et avec tout ce qui l'entoure. C'est sa mission. C'est ce pourquoi il est sorti, il est là. Alors la guérison de cet homme est le premier acte public de Jésus. Il suscite un véritable succès auprès des habitants de Capharnaüm, même s'ils n'ont pas saisi le sens exact de cette guérison. Mais nous ne sommes qu'au début de l'Évangile. C'est pourquoi l'histoire se continue dans la maison de Simon-Pierre et d'André, où nous faisons la connaissance de la belle-mère de Pierre, ce qui laisse supposer que Pierre avait une épouse, comme cela est d'ailleurs précisé un peu plus loin dans une des lettres de l'apôtre Paul. Et l'atmosphère du passage que nous avons lu à l'instant est tout à fait différente. Je dirais même que nous sommes devant un chef-d'œuvre de concision écrit par l'évangéliste Marc. L'essentiel est dit en quelques mots. Jésus se rend dans une habitation, une maison, un lieu privé, peut-être pour célébrer le sabbat. Il entre dans la maison de deux des quatre disciples appelés peu de temps auparavant. Cela se passe en petit comité. Il y a Jésus, les quatre disciples, la belle-mère de Simon-Pierre, dont on apprend au détour d'une allusion qu'elle a de la fièvre. Jésus intervient dans une grande sobriété. La guérison de cette femme n'est aucunement spectaculaire. Jésus s'approche d'elle, lui prend la main, la fait lever, la fièvre la quitte et elle les sert. C'est une guérison d'une extrême douceur. Pas d'exorcisme, aucune parole, pas de questionnement sur l'identité ou l'autorité de Jésus, aucun enseignement de la part de Jésus. Il remet cette femme debout, tout simplement, avec ce petit clin d'œil linguistique qu'on ne peut pas passer sous silence, puisque le verbe employé par l'évangéliste Marc emploie et se traduit par « il la fit lever », mais peut dire aussi « ressusciter ». Avec cette guérison toute simple qui passe presque inaperçue, nous sommes déjà symboliquement au cœur de la foi chrétienne, au cœur de la bonne nouvelle. Et quelle est-elle, cette bonne nouvelle? D'une part, dissocier la maladie, quelle qu'elle soit, de la notion de punition divine. En Jésus-Christ, Dieu est venu annuler toute forme de malédiction liée à la maladie ou à l'infirmité. D'autre part, faire découvrir une nouvelle notion de la foi. Avec l'ensemble des guérisons opérées par Jésus tout au long de son ministère, avoir foi en Dieu, et là je cite Raphaël Picon, c'est avoir foi en une force de résurrection et de transformation créatrice à l'œuvre dans le monde. La foi est cette expérience par laquelle nous sommes saisis par une parole, un geste, un événement qui nous raccroche à la vie et réenchante notre existence. Fin de citation. La journée qui a commencé lors du sabbat, c'est-à-dire la veille au soir, selon la manière de compter le temps à cette époque, il y eut un soir, il y eut un matin, selon la formule du livre de la Genèse, s'est poursuivie dans la maison de Pierre dans la journée jusqu'au coucher du soleil. Et maintenant, le sabbat est terminé. Dans la nuit, une nouvelle journée commence et Jésus peut continuer son œuvre de guérison jusqu'à l'aube. Alors, on lui amène les malades, les démoniaques de toute la ville. Toute la ville était à la porte, que je suppose être celle de la maison de Pierre. Alors, nous sommes sensibles à cette exagération qui symbolise la renommée de Jésus qui s'est faite en quelques heures seulement. L'évangéliste Marc insiste sur la guérison de nombreux malades, souffrant de maux divers et variés sans les nommer. Jésus chasse encore de nombreux démons avec la même consigne de silence afin qu'ils ne révèlent pas qui il est, car, contre toute attente, leur dysfonctionnement mental leur montre et leur donne cette intuition plus sensible que les autres. Au matin, alors qu'il fait encore nuit, nous dirions entre chien et loup, Jésus s'éloigne de Capharnaüm, il se retire dans un lieu désert pour prier. Oui, prier. Prier pour lâcher prise. Prier pour se reconnecter à la source. Prier pour ne pas céder peut-être à la tentation de la toute-puissance. Prier pour rendre grâce, prier pour son propre discernement. Prier pour recevoir le courage d'être lui-même et de rester fidèle à sa mission. Prier aussi pour se rappeler que tout ce qu'il donne, il le reçoit d'un autre, celui qu'il appelle son Père. Et plus tard, il nous invitera à en faire de même. Alors sa prière dure un moment suffisamment long pour que les disciples se mettent à sa recherche. « Tout le monde te cherche, disent-ils. Les disciples voudraient bien que Jésus accède constamment à la demande de la foule, mais Jésus ne répond pas à l'appel pressant. Il doit aller plus loin dans de nouvelles contrées. Sa mission est de proclamer la bonne nouvelle et elle se continue ailleurs. Les villages voisins sont à portée de main pour recevoir cette bonne nouvelle et ce n'est qu'un début. » En écoutant ce texte confié à notre méditation aujourd'hui, posons-nous la question de savoir comment il nous rejoint en cet instant précis. Dans les évangiles, les miracles ou les guérisons de Jésus sont souvent appelés des signes. Ce sont donc toujours des actions, des gestes à interpréter dans le but de mieux connaître le Dieu de Jésus-Christ. En écoutant le récit de cette journée de guérison à Capharnaüm, ce texte nous rejoint-il? Nous avons plutôt la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Nous ne sommes pas possédés par des démons, en tout cas pas par ceux qui ont cette intuition sensible de savoir et de proclamer qui est le Christ. Pourtant, nos vies sont loin d'être un long fleuve tranquille. Que faisons-nous de ce qui nous arrive comme malheur, comme déception, comme souffrance? Que faisons-nous de ce qui nous arrive dans notre quotidien depuis un an avec cette pandémie? Nous sommes en train de vivre des mutations immenses à l'échelle planétaire. Le monde est sens dessus-dessous. Notre société, comme nos églises, toutes dénominations confondues, sont sens dessus-dessous. Nos relations humaines, fraternelles et familiales, sont fragilisées. Quels esprits impurs est-ce que cette épreuve a mis en place dans notre tête et dans notre cœur? Quelles sont les sécurités ou les idées toutes faites, les préjugés, les suffisances, ou encore les dépendances, les addictions, ou les histoires personnelles qui parlent à notre place plus ou moins consciemment? N'y aurait-il pas tout de même quelque chose en nous à guérir? Et par quoi nos contemporains, en politique, en société ou en église, sont-ils possédés lorsqu'ils ne prennent pas le recul nécessaire pour examiner telle ou telle situation? Ou qu'ils cultivent leur méfiance à l'égard de celles et ceux qui sont dotés de compétences différentes des leurs? Qu'est-ce qui se joue entre eux ou en eux, dans leur volonté insatiable d'avoir toujours raison? Au risque de la mauvaise foi, voire du mensonge, de la diffamation ou du multiple langage? N'y aurait-il pas là aussi quelque chose à guérir? Alors aujourd'hui, bien sûr, Jésus de Nazareth n'est plus physiquement avec nous, mais le Dieu de Jésus-Christ demeure présent par sa parole, relayé par la Bible d'une part, mais aussi par les témoins qui l'ont interprété de génération en génération d'autre part. pour les chercheurs de Dieu que nous sommes, en ces temps incertains de pandémie, ce que nous appelons la bonne nouvelle, est-ce encore quelque chose qui nous émerveille ou qui nous étonne? Et pour les croyants, voire les pratiquants que nous sommes, est-elle le moteur de nos engagements et aussi le filtre pour conserver des relations respectueuses? Pour qu'elle soit toujours vivante, cette bonne nouvelle, il faut prendre le temps de la lire, de la relire, de la décoder pour notre contexte actuel et pour nos vies aujourd'hui, surtout si nous croyons très bien la connaître. Gardons aussi à l'esprit l'exigence de l'interprétation et de l'actualisation avec toutes les sciences, sans négliger celle qui pourrait nous guérir en mettant des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Alors, frères et sœurs, amis, si nous réalisons ici et maintenant qu'il y a quelque chose en nous à guérir, réjouissons-nous. Nous sommes déjà sur le chemin de la guérison. Ce qui est interrogé aujourd'hui par ce texte, au fond, c'est notre foi par laquelle nous accueillons cette parole qui, contre toute apparence, ne condamne pas, mais restaure et réconcilie. Amen. dans le Louange et prière au cantique numéro 202. Nous chanterons les trois strophes de ce cantique. Je vous invite à vous lever. Prenez place.
Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Bienvenue donc à ce culte, aux personnes qui sont physiquement dans le temple et puis à ceux qui nous ont suivis également sur Internet. N'hésitez pas à nous rejoindre avec un masque, évidemment, et dans le respect des gestes barrières, mais surtout, ne restez pas chez vous, ceux-là qui le souhaitent, venez évidemment nous rejoindre. Vous avez vu, le temple est suffisamment grand pour que nous ne soyons pas les uns sur les autres, donc le masque et les gestes barrières, mais ceux-là qui le souhaitent, rejoignez-nous. Et donc, surtout, rejoignez la pause spirituelle qu'anime notre pasteur Agnès tous les jeudis. Donc c'est l'horaire habituel, jeudi dans le temple, de 12h30 à 13h30. Donc voilà, ceux qui le souhaitent, toujours évidemment avec le masque, mais n'hésitez surtout pas à rejoindre et entourer Agnès pour cette pause spirituelle. Alors je profite de ce petit moment d'annonce, hein, qui sera court, je vous rassure, pour faire le rappel de la demande de Denise Brigou, qui a besoin de produits de soins et d'hygiène corporelle pour les personnes dans le besoin dont elle suit et dont elle s'occupe. Donc, lorsque vous venez au culte ou à la pause spirituelle, vous pouvez amener ces produits d'hygiène et les déposer tout de suite à gauche en entrant dans la première chapelle, et puis ils lui seront acheminés. Et puis, alors, dernière annonce pour moi, c'est pour vous annoncer que aujourd'hui c'est la collecte dite d'entraide, donc qui nous servira à aider les personnes dans le besoin que nous suivons habituellement. Et à partir d'aujourd'hui, donc, le panier connecté de l'entraide est dispo. Donc vous pouvez faire vos dons par carte bleue. Donc c'est Christophe qui passera avec le panier connecté parmi. Faites-lui un petit coucou pour attirer son attention. Et vous verrez, c'est le même principe que le panier de la Pérole, il y a des dons qui ont été une programmation sur une fourchette qui va de 5 à 20 euros. Voilà. Et je passe le micro à Aurore qui a un dernier petit truc à vous raconter.
Le temps que vous sortiez votre carte bleue, juste pour faire un petit clin d'œil à Agnès, et ce n'était pas prévu, c'est que j'ai vu que Nicole Aymar, dont vous avez parlé en décembre, qui était partie en urgence se faire opérer du cœur, la semaine dernière, elle s'est cachée, est arrivée en retard. Cette semaine, elle est arrivée en retard aussi, elle se cache, mais elle est là, ça nous fait très très plaisir, c'est une très très belle guérison. Merci Nicole d'être parmi nous. Merci. Et l'offrande pour l'entraide maintenant.
Prions ensemble. Dieu notre Père, Dieu de la vie, nous te rendons grâce d'être venu te mêler à notre histoire, de venir là où nous en sommes et de rester tout près jusqu'au bout. Nous te rendons grâce de chercher à parler à nos cœurs, de les ouvrir à ta compréhension et de ne jamais te lasser de nous convertir à toi et de nous guérir. Alors nous te présentons notre monde, notre pays, notre société, notre Église, en souffrance. Nous te présentons dans le profond de nos cœurs celles et ceux qui restent sur le rivage parce qu'ils n'ont plus la force, parce qu'ils ont perdu confiance, ou bien parce que d'une façon ou d'une autre leur histoire s'est détachée de toi et qu'ils se sont fermés à ta parole, à ta présence. Nous te prions pour celles et ceux qui sont écrasés de fatigue et d'inquiétude, celles et ceux dont l'histoire vacille, celles et ceux dont l'histoire prend fin. Nous te prions pour celles et ceux qui portent aussi leur histoire à bout de bras. Et pour celles et ceux qui construisent une histoire meilleure, et celles et ceux qui aident à l'histoire des autres. Viens te mêler à leur vie. Viens leur redire que ton royaume est pour eux, qu'il ne se dérobera pas. Aussi sûr qu'un grain peut donner du fruit, ta parole peut relever, ressusciter la confiance, l'espérance, que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de toi. Et nous te disons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en proie à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, partageons encore cette exhortation que nous trouvons dans la lettre aux Éphésiens. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa parole nous éclaire, que son amour nous guérisse, que sa paix soit au milieu de nous, en famille, en église, en amitié, au travail, quelles que soient nos épreuves, et que sa présence nous accompagne chaque jour. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche. Merci de laisser les recueils à votre place. Bonne journée.